Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens, aujourd'hui encore pour sa dernière émission de la saison.
En direct du studio 511, une émission réalisée sans gilet de sauvetage par Jérôme Chélius, assisté de June Loper et Théo Lacombrade à la technique aujourd'hui.
Et cette semaine, Comme un bruit qui court fait le grand écart entre réalité et fiction. Dans la vraie vie, devant le Sénat, des citoyens brandissent des gilets de sauvetage pour ne pas noyer le droit d'asile. Mais dans notre contre radiophonique, nous partons en réalité augmentée au pays des premiers de cordée.
En pratique, vous voyez quoi comme problème nouveau que ça risque de générer ?
Ça va être très très compliqué à gérer, une période aussi longue d'enfermement avec une incertitude, un avion qui peut arriver n'importe quand, et ça va être compliqué.
On n'est plus dans l'humain, là. T'es de la viande. Excusez-moi, mon vestiaire, c'est un cercueil quelque part, vous comprenez ?
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, au rythme des réformes imposées au pas de charge par notre premier de cordée préféré. Ordonnances, procédures accélérées, textes de loi sur l'immigration, le logement, l'agriculture, examinés à toute allure, la nuit, les week-ends et votés par des députés épuisés. Ça se passe comme ça en Macronie. Sauf que là, parlementaires et membres du gouvernement sont au bord du burn-out. Une situation de thrombose, dénoncée mercredi dernier deux députés dans un rapport remis à François de Rugy. Dès le 31 mai, Jean-Luc Mélenchon ironisait ainsi à la tribune de l'Assemblée.
Depuis, vous avez mis une cellule d'aide psychologique pour ceux qui se sont effondrés en route, parce que réellement, la situation est intenable. Et si on ne fait de la politique qu'avec des surhommes et des surfemmes qui sont capables de vivre sans vie de famille, nuit et jour enfermés dans un hémicycle, alors c'est petit destin que la chose pour la chose commune dans l'avenir.
Quel râleur, ce Mélenchon, on l'aurait presque traité de fainéant à l'Assemblée. Alors toi, Guy, pour cette dernière émission de la saison, tu nous emmènes dans un pays merveilleux où personne n'est jamais épuisé.
Oui, pour changer d'air, je vous propose un conte radiophonique un peu spécial avec des vrais morceaux de reportage dedans. C'est l'histoire d'un monde merveilleux dont les habitants se font appeler les premiers de cordée.
Mais avant de partir dans ce monde merveilleux, c'est dans une réalité bien moins reluisante que tu nous emmènes, Antoine, autour de laquelle l'Europe et les États-Unis se déchirent. Et c'est à se demander qui viendra imaginer la loi la plus cruelle pour tenter de dissuader les candidats à l'exil. Après les centres de rétention pour enfants outre-Atlantique, c'est la France qui examine depuis mardi son projet de loi asile-immigration au Sénat.
Oui, et les débats y font rage, en tout cas entre les sénateurs qui sont présents dans l'hémicycle. Après un passage mouvementé à l'Assemblée nationale, fin avril, le texte de loi a été durci par la commission des lois du Sénat. Et les associations de solidarité et de soutien aux réfugiés se mobilisent. Un collectif de citoyens qui se fait appeler « Accueil de merde » a déversé une palanquée de gilets de sauvetage orange devant le palais du Luxembourg. Mardi matin, un pour chacun des 348 sénateurs, même s'ils ne sont pas tous là. Pour qu'ils ne laissent pas le droit d'asile, toucher le fond quand les réfugiés de l'Aquarius ne sont pas les bienvenus sur le territoire. Le projet de loi prévoit aussi, pour mieux les expulser, d'allonger la durée de rétention des demandeurs d'asile, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes de logistique, immobilière et sanitaire dans les CRA, les centres de rétention administrative. Petite visite guidée.
Comme un bruit qui court, un conte d'été au pays merveilleux des premiers de cordée et dans notre réalité de l'air, ouvrez les frontières, c'est jusque 17h sur France Inter.
La France. L'Assemblée nationale débat ce week-end de la loi asile et migration, la loi Collomb. Elle est portée justement par le ministre de l'Intérieur.
Les migrants aussi.
Depuis quelques jours, les débats sur la loi asile et immigration se tiennent dans une ambiance quelque peu crispée.
Beaucoup disaient la majorité sera à l'épreuve de ce texte.
Le texte porté par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est critiqué à droite.
Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
La droite qui le juge trop laxiste.
Je souhaite qu'on aille plus loin. J'avais défendu des amendements dans ce sens à l'Assemblée nationale.
Et puis nous avons discuté, nous avons convaincu.
Dans cette nouvelle mouture, la commission des lois du Sénat a durci le ton par rapport à la copie de l'Assemblée.
Je crois que la ligne qui a été adoptée est la ligne qui permet la prise en compte des réalités.
À gauche et du côté du Parti Socialiste, on considère que ce texte est liberticide et inhumain.
Cette loi est effectivement extrême. Elle est extrême parce qu'elle est inhumaine.
Éric Coquerel.
En durcissant toutes les conditions d'accueil et de séjour des migrants.
Un certain nombre d'articles comme celui qui allonge la durée de rétention.
Elle est inefficace parce qu'il n'y a pas un mot sur les causes qui font en sorte que des gens partent de chez eux au risque de leur vie. Rien sur les causes climatiques, rien sur les causes de libre-échange, rien sur les causes de guerre. En réalité, vous faites une loi monstre.
L'ordre du jour appelle.
Le vote solennel aura lieu le 26 juin, avant un passage en commission mixte paritaire pour trouver une version commune aux deux chambres.
Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Comme un bruit qui court.
Antoine Chao,
Charles Perrault,
Guy Ventil.
T'as pas entendu comme un bruit?
Tout le monde dit grave, hein. Tout le monde dit la vie bouton.
Comment?
Hashtag comme un bruit.
Alors on arrive à Roissy Charles de Gaulle, et là on va aller du côté du CRA, du centre de rétention administrative qui est au Mesnil-Amelot, et où les gens sont parqués là près des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour des départs pas forcément désirés, bien au contraire. Et on a rendez-vous avec Bernard Jomier, qui est sénateur de Paris et qui va faire une visite surprise au CRA du Mesnil-Amelot.
Moi, je suis sénateur, je suis parlementaire. Et sénateur, il vote la loi. Ce sont des personnes qui, pour des raisons multiples, ont des parcours fracturés. Ils conjuguent le fait qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Donc, en soi, déjà, c'est un facteur dans l'accès à la santé de fragilité. Maîtrisant mal la langue, c'est une troisième cause de parcours de santé chaotique. Et en allongeant encore la durée de rétention, on va encore dégrader ses conditions de santé.
Bernard Jomier, vous vous inquiétez en fait notamment du droit des migrants sur les questions de santé, c'est ça? Donc vous m'avez convié à venir, à vous accompagner, à faire une visite surprise, on va dire, hein, du CRA, du centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot.
Oui, de façon générale d'ailleurs, la loi arrive et donc la loi contient beaucoup de dispositions d'ordre général qui marquent plutôt un recul, enfin même nettement un recul des droits des migrants. Et en particulier, moi, je vais intervenir sur, effectivement, les questions de santé. Je vais regarder et je présente des amendements pour m'assurer que les demandeurs d'asile qui sont placés en rétention et tout au long de la procédure aient la capacité de faire valoir leurs droits si leur état de santé est altéré et s'ils sont en rétention, qu'ils accèdent à l'ensemble des besoins de santé qui sont les leurs. Voilà. Ce qu'on peut constater, c'est que l'Assemblée nationale a à peine assoupli le texte du gouvernement. Vraiment, c'est dans le détail qu'elle l'a rendu un tout petit peu moins inhumain. Et malheureusement, puisqu'il est déjà passé devant la commission compétente du Sénat, la commission des lois, qui, elle, l'a considérablement durci. Donc maintenant, nous allons le discuter en séance publique et nous allons tenter de l'adoucir au maximum et de faire valoir une vision, on va dire, qui est plus traditionnelle de ce que fait notre pays, qui est de respecter les droits des demandeurs d'asile et des migrants et non pas de les maltraiter, y compris juridiquement.
Et là, on est dans le bus, hein, ligne 701, direction Saint-Laurent, et on va s'arrêter donc au CRA, au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot. On est en bout de piste, hein, de Roissy. On voit les avions qui décollent. Et du coup, c'est un site quand même assez stratégiquement installé, hein, en bout de piste, pour pouvoir emmener justement les expulsés directement sur la piste, quoi, sur le tarmac.
Ah oui, clairement. Je viens pour une visite du centre.
C'est bien reçu.
Merci.
Alors, donc vous êtes sénateur de quelle circonscription? Paris. Donc ici, vous arrivez donc dans la zone de rétention. Donc à partir de cette porte, les fonctionnaires ne sont plus armés. Sachant qu'au train numéro 3, il n'y a que des hommes.
C'est ce que j'allais vous demander.
Voilà. Oui. Hein, donc la capacité théorique est normalement de 120 hommes. Aujourd'hui, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes à 40 places hommes, puisque on a eu de gros problèmes immobiliers hein, depuis la mi-avril, avec des problèmes d'ouverture de portes, de non-fermeture, des problèmes d'alarme.
Et aux deux, vous avez quoi comme capacité ?
40 hommes, 24 places femmes, ouais. Et 16 places familles.
Et vous avez une durée moyenne de séjour ici qui est de combien ?
Là, elle est à peu près à 18 jours.
Pour 18 jours.
Pour le CRA 2 et CRA 3.
Donc, voilà le service médical du CRA 3, avec le cabinet médical du médecin derrière.
5 demi-journées par semaine. Ouais. Ok. Ça se passe comment ils voient les personnes ? Ça se passe comment les retenus demandent à les voir ?
Soit c'est les retenus qui demandent à voir le médecin.
D'accord.
Soit c'est nous qui jugeons.
Donc il n'y a pas de visite systématique des entrants ?
Non, même nous on ne les voit pas systématiquement. C'est à leur demande.
Je vous pose toutes ces questions parce que pour vous dire, je siège à la commission des affaires sociales du Sénat, je suis médecin. Et donc, on a le sentiment qu'il y a quelque chose quand même qui... La problématique santé ressort un peu trop souvent, si je puis dire. Vous savez que la loi qui est en cours de discussion, l'Assemblée nationale a augmenté cette durée à 90 jours, qu'elle arrive au Sénat, donc on la discute à partir de demain au Sénat, et que je ne sais pas quel sera le délai final, mais je prends le pari que ce sera bien 90 jours.
Et nous, des fois, on met des choses en place et le monsieur, le lendemain, est libéré.
Bien sûr. C'est ça,
ça, à l'avance, on ne peut pas le savoir.
Mais ce que vous décrivez, c'est exactement ça. Ce sont des personnes qui, pour des raisons multiples, ont des parcours de santé chaotique.
Bonjour.
Bernard Jouvier, je suis sénateur.
Oui, bonjour.
De Paris.
Bonjour.
On est deux de la CIMAD, il y a ma collègue.
Bonjour. Comment ça se passe pour vous, pour la CIMAD, pour travailler ici ?
On n'est pas là dans le même objectif et on est là pour un objectif contraire. Donc, puisque la position de la CIMAD, c'est de fermer les centres de rétention. Donc effectivement, c'est pas toujours évident. Après, les relations sont cordiales et nous, on a surtout des relations avec le greffe du centre de rétention qui a les informations juridiques, etc. Et on fait le lien avec toutes les juridictions. En fait, toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, ce qui est la très très grande majorité, c'est nous qui faisons tous les recours auprès des tribunaux, des demandes d'asile s'il faut. Voilà, après, c'est varié suivant la situation de la personne. Mais nous, on est là tous les jours et les personnes ont libre accès au bureau et elles viennent poser des questions ou exercer des droits de recours, quoi.
Moi, j'ai quand même noté qu'il n'y a pas d'entretien médical systématique à l'arrivée, il n'y a pas d'évaluation systématique. À l'arrivée, j'étais un peu surpris tout de même.
Nous, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies diverses et variées. Ça peut évidemment, les troubles psychiatriques, de même qu'en prison, sont assez présents, mais aussi des maladies plus graves. Là, on a eu, il n'y a pas très longtemps, une personne qui avait une tuberculose contagieuse qui est restée enfermée quasiment deux semaines avant que ce soit diagnostiqué. Donc, voilà. Il y a quand même des vraies problématiques en termes de santé qui sont importantes et je sais pas combien il y a de médecins ni comment ils fonctionnent, mais je sais qu'ils se plaignent d'être en sous-effectif assez régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, à juste titre ou pas, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas en termes d'accès à un traitement qui ne va pas être le même qu'à l'extérieur ou un traitement qu'ils ne peuvent pas avoir, notamment sur la question de l'accès au dentiste, ça peut paraître accessoire, mais en réalité il n'y a pas d'accès au dentiste, il n'y a rien du tout, ce n'est pas la faute des infirmières ici, mais il n'y a rien. Donc les personnes, quand elles ont mal, elles prennent un Doliprane et puis elles attendent, quoi. L'incertitude fait aussi que la prise de rendez-vous médical peut se faire et en fait, la personne est expulsée entre-temps. On n'a pas pu la soigner, quoi.
On risque, malheureusement, d'aller vers une extension de la durée de rétention. Au-delà de l'atteinte au droit, au-delà de cette question-là, en pratique, vous voyez quoi comme problème nouveau que ça risque de générer ?
Ça va être très très compliqué à gérer. Une période aussi longue d'enfermement avec une incertitude, un avion qui peut arriver n'importe quand et... Ça va être compliqué. Là, vous voyez les vols qui sont écrits, mais c'est très régulier que des vols ne soient pas écrits. Donc on vient chercher les personnes à 5h du matin, et si elles ont déjà manifesté un refus de vol, ils se font attacher de la tête aux pieds et emmener dans l'avion, quoi. Beaucoup de tentatives de suicide, essentiellement la veille des vols, etc. etc. Donc, voilà, si on ne veut pas que la personne se suicide pour pouvoir la mettre dans l'avion le lendemain, puisque c'est la logique de l'administration, on l'enferme dans la chambre d'isolement et comme ça, elle est disponible, entre guillemets, pour le vol le lendemain. Donc,
Et là, nous entrons en zone de vie.
La zone de vie.
Bonjour, messieurs.
suis sénateur. Et je viens voir ici, puisque en France, les personnes comme vous qui sont en centre de rétention, les députés ou les sénateurs peuvent, ont le droit de venir visiter quand ils veulent. Donc je n'ai pas prévenu l'administration, je suis venu pour voir comment ça se passait ici, pour vous qui êtes en rétention, comment... comment vous... Évidemment, j'imagine que ce n'est pas drôle pour vous.
Franchement, ici, on n'est pas bien. Franchement, franchement, j'ai été présent, j'ai trouvé ici pour rien, tu vois, à cause des papis. On est des êtres humains, c'est-à-dire on sent pas bien parce qu'à cause des. Il y a des maladies ici, on gratte, il y a des trucs, ça passe pas bien. Il y a la gale, il y a des. Ben ouais, frère.
Tout le monde y gratte, là, tout le monde y a des boutons.
Mais vous êtes allé au service médical?
Oui, c'est de l'épreuve pour les boutons. Et donc de l'épreuve.
La police. On est bien avec les gens.
Comme moi et lui, on est malade des dents. Il n'y a pas d'infirmerie. Il y a infirmerie, mais il n'y a pas de dentiste. Imagine, regarde. Ouais. J'ai une dent, c'est-à-dire gencive. Tu vois, tu peux pas. J'étais au prison, c'est mieux qu'ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de dentiste. Tu demandes d'infirmerie, il va dire attends 45 jours jusqu'à ce que tu passes. Jusqu'à ce que tu sors, tu peux faire dehors. Mais comment, imagine, je suis mort. Parce qu'il y a des gencives, c'est-à-dire il y a des maladies, il y a des trucs, ça ne passe pas, tu vois.
Et 45 jours, j'ai trop.
Donc, vous trouvez, vous n'êtes pas bien soigné, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne va pas ici? Vous trouvez que c'est
monsieur,
quoi?
Monsieur, Nous, on est ici, on est coupable, on est victime, je ne sais pas. Pourquoi? C'est la terre de Dieu, ça. On veut, on a ce qu'on veut. On n'a pas des papiers, oui, mais on n'est pas des criminels, on n'a fait rien. Tu passes au jugement, bonjour 28 jours. Après, tu allez, la deuxième fois, directement 15 jours.
Vérification, il n'y a pas de papier. Ah
ouais, même moi, c'est-à-dire, tu vois, quand tu sors, tu sors avec rien, tu vois. C'est-à-dire, tu n'as rien fait, ils vont mettre direct au centre de rétention.
Là, ici, voilà.
Tu vois, 45 jours, c'est trop.
Moi, par exemple, monsieur, je travaille, je ne sais pas pourquoi je suis là.
Oui, ce que je veux vous dire, c'est que. Moi, je suis sénateur, je suis parlementaire. Et sénateur, il vote la loi. D'accord. Et on regarde...
De gauche,
je suis. Et donc, on regarde, après, ici, si on s'occupe correctement de vous pendant que vous êtes là. Ce que j'ai bien compris, c'est que si vous restiez 4-5 jours, bon, mais là, 45 jours, vous voudriez quand même pouvoir mieux manger, avoir plus d'activité... Et pouvoir être mieux soigné au moins.
Ah, ouais. Franchement, j'étais présent, c'est mieux.
Parce que ici, même les repas, ça ne coûte pas un euro, voilà.
Merci. 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 Bonjour. Merci.
Bonjour.
Merci.
Nous sommes vos amis. R.I.G.
Alors après 3 heures de visite de ce centre, Bernard Jomier, ça ressemble à ce que vous craignez ou ce que vous pensiez?
Oui, clairement. Enfin, on est dans un lieu de privation de liberté qui a été conçu pour des gens qui devaient rester peu de temps, une dizaine de jours. Et on voit que là, maintenant, le législateur, dans sa volonté d'allonger la durée de rétention, outre l'atteinte aux droits que ça génère, mais en plus... fait que la privation de liberté devient beaucoup plus violente parce qu'il n'y a pas dans les centres de rétention les mesures, on va dire, de vie sociale qu'il peut y avoir dans une prison. En centre de rétention, il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas d'activité, on ne peut pas acheter des compléments de nourriture, par exemple. Et donc, on va mettre en rétention des gens pendant des durées de plus en plus longues en créant une atteinte qui n'est pas légitime, qui ne devient plus légitime. Voilà, donc il faut clairement s'interroger, je pense, sur le fait que ces durées de 90 jours sont beaucoup trop longues.
pour la rétention telle qu'elle existe. Ces personnes, sur un plan santé, qui sont en situation irrégulière au titre de séjour, ont difficilement accès aux actions de santé, aux traitements, aux actions de prévention. Et là, on voit bien que, par exemple, il y a une personne, un jeune homme, qui est resté 15 jours avec une maladie grave, une tuberculose contagieuse, sans que personne ne s'en rende compte. Donc il faut très clairement améliorer l'évaluation santé des personnes qui arrivent en rétention et leur donner plus de droits en la matière, parce que pour le moment, la situation n'est pas bonne. Et en allongeant encore la durée de rétention, on va encore dégrader ses conditions de santé. Et qu'on est en train de dériver vers un système qui n'a même pas les avantages de la détention, de la mise en prison, qui est un système donc là de négation assez violente de droits qui sont des droits fondamentaux de la personne humaine.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée pour une immigration.
Sauve ton honneur, sénateur, défenseur. Sauve ton honneur, sénateur.
Et une intégration réussie.
Jolie Lalande, Hervé,
ils sont dessus, la vache.
Touché, bonjour.
Comment on va faire l'appel ?
Genet, c'est tous les noms des sénateurs qui sont collés sur des gilets de sauvetage qui sont déversés devant le Sénat mardi 19 juin à 8h du matin. Et le texte de loi va passer devant le Sénat à partir d'aujourd'hui pour quelques jours.
Des sénateurs qui enfilent un gilet de sauvetage, une image symbolique prise ce matin à Paris en soutien d'un collectif de bénévoles d'aide aux migrants. Ces derniers ont déposé 348 gilets portant chacun le nom d'un sénateur pour protester contre le projet de loi asile-immigration débattu à partir de cet après-midi à la Chambre haute du Parlement. Un texte qui a suscité beaucoup de critiques, y compris au sein du mouvement présidentiel. Il a en outre été durci par la commission des lois du Sénat. Un vote solennel aura lieu le 26 juin.
On va vous remettre donc ce gilet qui renvoie à votre responsabilité d'élu et votre responsabilité par rapport à tout ce que vous allez faire sur ce travail parlementaire sur la loi asile-immigration. Donc Madame Benbassa, voilà votre gilet.
Merci.
Qui vous engage.
Monsieur le comte, de l'air pour les frontières. De l'air.
Alors Esther Benbassa, aujourd'hui, le 19 juin, mardi 19 juin, il y a le texte de loi, hein, donc immigration, droit d'asile et intégration, qui passe au Sénat.
Oui, avec ce titre, ouais. Très rassurant, mais une loi qui n'est absolument pas rassurante. Au contraire, c'est une loi d'affichage, puisque nous sommes à notre 20e loi depuis 1970, et que rien n'a changé à l'accueil des exilés. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas seulement la crise humanitaire, mais c'est les conditions d'accueil. Nous faisons tout pour que... pour décourager les exilés de venir en France. Et on oublie qu'aujourd'hui, l'immigration est un mouvement mondial transnational et que demain, on aura aussi les réfugiés climatiques et qu'il faut trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas seulement nationales, mais surtout européennes. Une répartition équitable des exilés dans les différents pays de l'Union européenne. Mais on voit que les pays de l'Est sont totalement fermés à cette solution et que nous sommes dans le cynisme et dans l'affichage politique en regardant du côté de l'extrême droite ou de la droite dure pour leur envoyer des messages en disant que voilà, nous pensons comme eux et nous faisons comme eux. Je parle du gouvernement. Mais enfin, on ne peut pas continuer comme ça à accueillir ces migrants. Ce n'est pas un accueil. On a vu ce qu'on a fait à l'Aquarius. Moi, historienne, ça me rappelle les années noires avec le bateau Saint-Louis, le Struma qui a été torpillé est en mer Noire, où ces juifs persécutés qui cherchaient à accoster dans une ville où les nazis n'y étaient pas. Alors, on a l'impression que l'histoire se répète de la pire manière. Et c'est très inquiétant. Voilà.
C'est plus collectif, alors.
Bah là, c'est plusieurs collectifs, notamment du Nord parisien, 18e, 19e. Hein, c'est des collectifs qui, depuis un certain nombre de temps, fonctionnent un peu ensemble. Et des actions communes comme ça. Et donc, moi, tous les collectifs, en fait, qui s'y raccrochent, sont les bienvenus et on travaille ensemble. Quoi.
Voilà, moi, c'est Jocelyn et je suis le représentant d'un collectif de gens qui se sont mobilisés depuis 2 ans en faisant des petits déjeuners, en faisant des cours de français, en faisant du logement de mineurs isolés, etc. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, on s'est dit qu'on nous prenait pour des cons un peu, et donc on s'est mis à faire des actions. Et à ce titre-là, on est un peu connu sous le nom Accueil de merde, parce qu'on dénonce justement cette politique de non-accueil que la France organise. Alors qu'on pourrait faire beaucoup plus simple, moins cher et beaucoup plus efficace. Et beaucoup plus digne aussi pour les gens qui arrivent chez nous et qui veulent vivre, comme tout le monde d'ailleurs. Pour nous, les gilets de sauvetage, c'est... une charge émotionnelle, c'est vraiment ces tas de gilets qui sont sur les îles de Lampedusa, de Lesbos en Grèce, où des gens viennent mourir, mais comme ils ne meurent pas dans nos rues en bas de chez nous, on s'en fout quoi. Donc on veut ramener ça sur la place publique, devant le Sénat où il n'y a pas un migrant qui traîne, hein, et nous dire qu'on a à tous collectivement qu'on a une responsabilité dans ces morts-là. Et je pense qu'il faut que nos élus prennent conscience qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi du droit. Et si on est dans un état de droit, on respecte les droits de chacun et de chacune. Or là, on va, avec la rétention des mineurs, on va enfreindre les conventions les plus fondamentales de la République française et ses valeurs. Mais les valeurs, on s'en fout. Enfin, je pense que c'est d'abord et avant tout une question de droit. On va essayer de faire en sorte que cette loi ne soit pas votée telle quelle, parce que là, il y a des éléments intéressants sans doute, mais globalement, elle va dans le sens d'une répression, d'une invisibilisation de ces migrants, parce que tout ça ne va pas disparaître, et d'une mise en danger, vraiment d'une mise en danger. D'où l'idée de gilet de sauvetage. Hein. Ce n'est pas que juste pour le côté esthétique, c'est vraiment parce qu'un gilet de sauvetage, ça sauve des vies. Et qu'on a une mission là, collectivement, c'est de faire en sorte que des vies soient sauvées, parce qu'elles sont en danger.
Notamment avec ce qui s'est passé avec l'Aquarius la semaine dernière. Quoi.
Évidemment, notre action, on la prépare d'avant, mais avec l'Aquarius, c'est sûr que ça fait réémerger dans le débat public des trucs qu'on ne veut pas voir. C'est que le cynisme politique tue.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 38 au sein de l'article 5.
On ne veut pas, Sénat, la loi, on n'en veut pas.
Jean-Claude Masse, alors vous êtes secrétaire général de la CIMADE.
À la CIMADE, on demande que le projet de loi soit retiré. Les amendements qui ont été apportés à l'Assemblée nationale comme aujourd'hui au Sénat ne font que dégrader et amplifier un projet de loi qui est d'abord et avant tout un projet de contrôle, de tri, d'expulsion, de suspicion, d'acharnement sur les personnes étrangères dans ce pays. Et donc ce qu'on demande collectivement, CIMADE et d'autres, c'est que ce projet soit retiré et qu'éventuellement on envisage une concertation élargie avec l'ensemble des acteurs sur le territoire pour penser une autre politique migratoire que celle qui nous est proposée aujourd'hui. Et donc c'est le projet de loi finalement c'est un élément de plus d'une politique migratoire globale qui se fonde sur la logique que l'immigration est un problème et que du coup il faut rendre invisible et qu'il faut endiguer ce problème-là par tout moyen.
Bernard Jomier, comment se passent les débats alors au Sénat ?
Ce qui est incroyable, c'est qu'on a assisté jeudi toute la journée à une absence de la majorité sénatoriale. Les sénateurs LR ne sont pas venus en séance et donc la commission des lois a dû user d'artifices de procédure en permanence pour faire avancer le texte. Et voilà, ce que ça dit très clairement, c'est que la majorité sénatoriale qui est responsable du texte, qui l'a considérablement durci, n'est pas satisfaite. Pour certains, ce texte ne va pas assez loin. Certains défendent des amendements qui sont les mêmes que celui du sénateur FN, donc des amendements d'extrême droite, et d'autres sont gênés par une posture qui est une posture de régression des droits. Donc ils ne viennent pas, donc ils ne sont pas ils sont mal à l'aise avec ce texte. Donc les gens ne vont pas siéger. On a parlé de la situation de l'évaluation médicale. J'ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui a une tuberculose et il n'y a eu aucune réponse. C'est-à-dire c'est à l'image de la discussion, c'est-à-dire aucune réponse. Voilà. Et c'est ça la discussion de ce texte, c'est qu'on ne nous répond pas, sans faute. Voilà. Alors le débat se poursuivra lundi, puisque le vote final doit avoir lieu mardi. Il faut rappeler que le gouvernement est arrivé avec un texte qui avait vocation à accélérer les demandes d'asile, c'était son intention affichée. Puis le texte a débordé sur la question des migrations, et donc il n'y apporte aucune réponse. Enfin, faut pas raconter d'histoire. Les migrations sont un phénomène qui s'accroît pour des raisons qui dépassent la question de l'asile. Il y a la question de l'augmentation des inégalités entre les pays sur la planète, qui n'ont jamais été aussi fortes. Il y a la question des réfugiés climatiques, etc., de mobilité qui s'accroissent. Et donc le texte pose des espèces de verrous qui n'ont aucun intérêt, qui ne répondent pas à la question, qui entretiennent une pensée assez repliée sur soi-même. Donc c'est tout à fait délétère, au point même d'ailleurs que le texte a dérivé vers une modification du droit de la nationalité en ce qui concerne Mayotte, et ce qui n'était pas du tout prévu par le texte initial, et la majorité sénatoriale a touché au droit de la nationalité par voie d'amendement en catimini, ce qui est tout à fait déraisonnable. Voilà, donc on voit bien que ce texte est mal maîtrisé, qu'il est mal fondé, il visait plus à une posture très très politicienne visant à répondre à la montée des populismes, mais on répond pas à la montée des populismes en les alimentant et en allant dans le même sens. Donc ça va être un texte qui va avoir des conséquences très dommageables, très négatives, y compris pour notre pays, et qui ne résoudra rien du tout à l'arrivée.
Veuillez ne pas rester calme, il vous arrivera plein de choses bizarres. Toutes les issues sont désormais condamnées, nul espoir d'échappatoire. Ceci est une prise de son, le commando n'a qu'un seul credo, ça tient qu'à nous.
Eh bien voilà une bonne idée Antoine, c'est peut-être des gilets de sauvetage qu'il faudrait à nos parlementaires pour se maintenir à flot des réformes en procédure accélérée.
En tout cas pour soutenir les vaillants sénateurs dans leur gilet de sauvetage, rassemblement mardi prochain le 26 juin, jour du vote au Sénat de la loi Asile et Immigration à 17h30 devant le Palais du Luxembourg. Un autre rendez-vous le 7 juillet à Calais pour accueillir la marche solidaire partie le 30 avril de Vintimille. Et sur les questions de santé, un rapport de la CIMAD qui vient d'être publié sur leur site lacimad.org, soigné ou suspectés.
Quittons maintenant cette triste réalité où l'on attache des hommes de la tête aux pieds pour les expulser, pour partir au pays merveilleux des rêves. Car c'est un conte radiophonique que tu nous as concocté, Give.
Oui, alors que beaucoup de ceux qu'Antoine nous a fait entendre évoquaient une régression des droits chez nous, pour la dernière émission de la saison, on s'est dit qu'on allait changer d'air en changeant de monde pour essayer autre chose. Je vous propose donc de partir dans un monde imaginaire en réutilisant nos reportages sur le réel pour en faire un objet sonore fictionnel, si loin, si proche, réel et fiction en même temps. Et comme on en a parfois marre du conflit, que la lutte ça use, que la manif c'est plus assez disruptif, on s'est dit qu'on allait partir pour ce monde merveilleux dont les habitants se font appeler les premiers de cordée. Ici, finis les soucis, les conflits et les contrariétés. Chacun a droit à la réussite et tous vouent un culte à l'argent décomplexé. Vous l'avez compris, on va avec des gagneurs, pas chez les glandeurs. Oubliez aussi toutes vos craintes irrationnelles sur la surveillance numérique, toujours plus prenante des GAFA sur nos vies et nos données personnelles. Dans le monde merveilleux des premiers de cordée, la transparence est totale. Il n'y a plus de choix à faire puisque l'algorithme se charge de tout. Bref, un compte en réalité augmentée pour préparer l'été. Oubliez la Startup Nation, bienvenue dans la Startup Fiction.
C'est alors...
Vision grand angle, vidéo live.
Étrangement.
Sirène.
Soudain...
Ok Google.
La vidéosurveillance pour tous.
Et puis...
Quelle taille fait la tour Eiffel ?
300 mètres.
C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt.
Là où tout le monde voit le changement climatique comme un danger, nous y voyons une opportunité.
Travaillez là, grattez, paumez, hop !
Oui patron !
Ils suivaient les traces du loup.
Et puis...
Il faut pas caricaturer. C'est un monde où chacun trouve sa place grâce à une intelligence artificielle. On l'appelle l'algorithme.
Donc là, on est vraiment dans le cœur de la machine, dans le cœur du réacteur, on va dire. C'est ici que sont développés justement les algorithmes qui vont nous permettre d'analyser les capacités de réussite des personnes à partir de l'évaluation de leur potentiel.
Il amasse toutes les données, trie, calcule, hiérarchise pour donner toujours la meilleure solution.
L'heure, c'est l'heure.
Dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte.
Bref, une formidable machine qui permet de ne pas se tromper.
Alors, tous nos collaborateurs maintenant qui rentrent dans l'entreprise passent par cet algorithme. Tous. Tous. On a repassé tout le monde dans cet algorithme. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de mesurer. Et donc, on a pu observer, c'est que on a repassé l'ensemble des gens qui étaient plus performants de l'entreprise dans cet algorithme et ils ressortent parfaitement bien.
L'algorithme a résolu tous les problèmes. Fini les tensions. Fini les drames nés de l'insatisfaction des uns vis-à-vis des autres.
Ok Google, lance la playlist.
Fini le sentiment de ne pas être à sa place.
Tout.
Qui ronge les esprits et tourmente les vies. Au pays des premiers de cordée, l'algorithme prévient toutes les erreurs de parcours.
Le bâton est en train de rouler.
Plus d'incertitude. Ici, chacun passe des tests pour mieux faire coïncider ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire.
Donc,
chacun est noté, fait des scores et réalise des objectifs selon le plan établi par l'oracle numérique.
Avec Google, voilà, une salle un peu détente.
Avec un petit poney dessus.
C'est pas un poney, c'est une licorne. Donc 8 Make Success Predictable, ça c'est vraiment en fait notre moto principale. C'est-à-dire qu'en gros, bah, comme on est spécialisé dans le recrutement prédictif, notre job c'est quoi ? C'est justement de bien anticiper quels sont ceux qui auront la capacité à réussir, à s'épanouir au sein des jobs qu'ils ont à proposer.
Ok Google.
Là ça marche là ? Alors, 2023, les frigos ne feront pas de vidéo définition.
Vous m'avez presque convaincu, j'ai envie d'essayer. Est-ce que je peux essayer de faire un test moi ?
Absolument, je vais vous créer un compte.
Pour voir si je suis efficace et si je peux me vendre.
Absolument, je vais vous créer un compte et vous allez pouvoir justement découvrir l'ensemble de vos potentialités et peut-être, pourquoi pas, identifier de nouvelles voies vers lesquelles vous pourriez vous épanouir peut-être encore plus. Hop, je vous crée un compte. Allez, partons là-dessus.
Alors, questionnaire à compléter. C'est parti.
Révélez votre personnalité ainsi que les talents qui font de vous une personne unique.
Je démarre.
Pour chacune des 90 questions, vous devez choisir la proposition qui vous correspond le plus. Vous êtes prêt à démarrer ?
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Je préfère avoir à traiter des tâches.
Variées, je m'ennuie rapidement, qui sollicitent mon imagination. J'adore innover. Ah, je vais prendre ça.
Je surprends parfois les autres par
ma créativité ou mon obstination.
Pour réussir, je peux compter sur mon aptitude à
je possède une forte ouverture d'esprit.
Dans mon travail, je prête davantage attention
à soutenir ceux qui en ont besoin.
La qualité qu'on me reconnaît volontiers.
Je dégage une énergie positive et dynamisante.
Les trois adjectifs qui me caractérisent le moins.
Croix distant réservé.
La qualité qu'on me reconnaît volontiers.
Une forte ouverture d'esprit.
Ce qui compte le plus pour moi c'est
positive.
J'ai plutôt un tempérament
de leader.
S'agissant des émotions.
Très exigeant.
On reconnaît unanimement
mon rayonnement naturel.
Ce qui me paraît faire une différence par rapport aux autres c'est
mon aptitude à rester calme en toute situation.
Félicitations.
Hein ?
Vous avez fini de compléter le questionnaire.
Ça y est. L'algorithme travaille.
Et j'ai une réponse qui apparaît.
Succès. Merci d'avoir complété votre profil. Vous allez découvrir vos résultats. Mes comportements privilégiés au niveau du ressenti.
Faire preuve de dynamisme.
Mes potentiels distinctifs.
Élaborer des stratégies.
Mon style personnel.
Innover. Agir. Soutenir les autres.
Proactif. Vous êtes toujours à la recherche de propositions et d'actions pour faire avancer votre travail. Vous gérez aisément le changement et les imprévus. Vous êtes doté d'un leadership et d'une volonté de progrès continu qui font de vous un moteur incroyable dans une équipe.
Oh, j'en étais sûr. Je suis un winner. Merci l'algorithme.
C'est cela l'esprit startup. Il est indispensable de développer ce venture capital. Nous devons devenir la nation des startups. Ou une startup nation. Une startup nation. C'est aussi une nation où tout le monde peut se dire qu'un jour, il va pouvoir créer une startup.
Je suis l'homme de l'an 2000. Je suis sans problème, ma vie est facile. Je ne pense plus du tout. Nous avons un roi qui pense pour nous. C'est
l'ordinateur.
Quand je vais me promener, je ne vais jamais au hasard. J'ai une voiture téléguidée. L'itinéraire est fait avant mon départ.
L'ordinateur.
Pour les filles, pas de problème. Je ne perds pas mon temps à leur dire je t'aime. Tous les soirs, je dois aller chercher une fille qui chaque fois est sélectionnée par... Quand je pense aux arriérés qui ne pouvaient pas vivre sans amour, je vous dis qu'on est mieux de nos jours. Pour l'homme de l'an 2000, le bonheur parfait, c'est
l'ordinateur.
Nous sommes tous conditionnés, alors abat des cartes et la pensée. Nous vivons l'âge d'or, je vous le dis. Moi, je ne pense plus, donc je suis vide.
L'ordinateur. L'ordinateur.
Ah, bravo, oui, qui court.
L'ordinateur. L'ordinateur.
Puisque chacun livre tous ses faits et gestes, toutes ses aspirations, toutes ces données, du coup, c'est tout le monde qui nourrit l'intelligence artificielle, qui, elle, dans son omniscience, triera. Prenez la justice, par exemple. Plus besoin de tribunaux ni de jurés. Vous n'avez qu'à soumettre les éventuelles plaintes, et c'est déjà réglé. Grâce à l'algorithme, que certains spécialistes se chargent de paramétrer.
On va dire que l'humain le laisse de côté. Bon, on fait pas le poids.
Imaginez que vous vous rendez chez un avocat au sujet d'une nouvelle affaire. Cet avocat, aidé d'une intelligence artificielle, vous donne précisément vos probabilités de succès devant un tribunal, vous donne le montant des indemnités que vous seriez susceptible de toucher. Plusieurs entreprises ont d'ores et déjà développé des logiciels qui comportent ces fonctions. Il s'agit du domaine de la justice prédictive.
On est dans le domaine, effectivement, du juge augmenté, de l'avocat augmenté, du client augmenté.
La justice du futur est donc déjà là.
Et ça, c'est du big data.
Bonjour.
Aujourd'hui, Predictis est capable de lire 2 millions de décisions de justice par seconde. Ce qui fait que si vous vous posez la question « Quelles sont mes chances de gagner un procès ?» ou alors « Combien est-ce que je peux gagner ?» posez la question et vous aurez une réponse.
Et là, vous pouvez me faire une petite démonstration, là ?
Oui, avec plaisir. Donc, vous êtes un avocat et vous avez un client qui estime avoir fait l'objet d'un harcèlement moral. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous cliquez sur « Harcèlement au travail », choisir la juridiction devant laquelle vous allez plaider, par exemple cour d'appel depuis 2012, dire qu'il y avait un harcèlement pour inaptitude physique, et bien dire que dans ce cas, il y a 28% de chances d'obtenir la reconnaissance du harcèlement moral. Et ça fonctionne exactement de la même façon avec le montant des indemnités. Vous avez le montant d'indemnité moyen que vous pouvez gagner, un tout petit peu plus de 9000 euros. Voilà, c'est un outil d'optimisation. Ça va permettre de prendre la bonne décision pour être sûr d'assurer la défense de son client.
Prédire l'avenir grâce aux mégadonnées, l'analyse prédictive est déjà un commerce juteux.
c'est de la justice expéditive. Le monde est en train d'évoluer. Et là, il y a deux possibilités. Hein, face à un tsunami, il y a deux possibilités. Soit on se braque, on se bloque, on dit je bouge pas, je reste la même chose. Et bon, le tsunami va passer quand même. Soit on regarde le tsunami, on l'anticipe un petit peu et on dit bah, je vais essayer de le surfer. Et dans ce cas-là, il faut en tirer le parti, il faut réfléchir à comment maximiser leur valeur ajoutée pour nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Sauf que je reste avec votre image qui me glace un peu le sang, de surfer sur un tsunami.
Disons que c'est une belle vague sur la côte Biarrot en été.
Près de l'avion. Excusez-moi, mon vestiaire, c'est un cercueil quelque part. Vous comprenez? Ah ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Tu vas crever au taf et même quand tu fais, c'est pas assez. Attends, on a tout donné. Tu veux quoi de plus?
Nous devons devenir la nation des startups.
Et pour les rares qui ne voudraient ou pourraient pas faire grand-chose au pays des premiers de cordée, ceux qui n'avaient pas de valeur ajoutée, l'algorithme avait tout de même trouvé une activité rémunératrice, accessible, même aux démotivés, même à ceux qui ne sont rien.
Bonjour. Je m'appelle Michael Williamson. Vous n'êtes maintenant plus qu'à 3 minutes d'avoir le secret qui changera complètement votre vie entre vos mains. Vous aurez besoin de deux choses. 1. Avoir du cran. 2. Un état d'esprit de gagnant. Mais le plus formidable avec cet outil est que vous n'avez pas besoin d'aucune expérience en rapport avec Internet. Vous avez juste besoin d'être devant votre écran pendant une minute et cliquer sur un seul bouton. Parce que c'est 100% automatique.
Mais même libérés du fardeau matériel, les hommes n'en restent pas moins des créatures spirituelles en quête de sens. Alors, pour galvaniser encore davantage les troupes, une religion unique permet aux premiers de cordée de communier autour de saines valeurs.
Amen.
C'est-à-dire, consommer.
J'entends rien, amen.
Une église de la très sainte consommation, avec un clergé dévoué prêchant la bonne parole et un pape 40 qui promet le salut terrestre.
Pape 40, pape 40, hey !
Fini la 16 et les jeûnes et autres contritions. Le paradis sur terre pour les premiers de cordée, c'est ici et maintenant.
C'est l'église de la très sainte consommation, travail, obéis, consomme.
Bonsoir, bienvenue.
Je suis le cardinal triple A, l'assistant personnel du pape 40 de l'église de la très sainte consommation. Et ce soir, j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer cette cérémonie à ses côtés. Il arrive! Oui! Il est là!
Et voilà. Telle une rockstar, le pape 40, avec ses cheveux blancs, son bandana Nike et sa soutane dorée avec des bagues en or, est applaudi par le public. Il arrive vraiment comme une rockstar, ou comme un boxeur, hein, levant les bras avec la poursuite de lumière qui le suit. Il embrasse ses fidèles et il monte sur scène avec ses baskets brillantes.
Nomine del pesus, del fricus, et del santissimus creditus.
Amen.
Ton père.
C'est vraiment une foule dévote qui est ici ce soir.
Mes chers petits moutons, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour rendre hommage aux serviteurs les plus zélés de la sainte croissance et du capitalisme débridé et décomplexé, en leur remettant cette statuette déjà culte, déjà légendaire. Le doigt d'or !
Ah oui, pour certains ronchons...
Oui, certains rabat-joie nous ont parlé de 2-3 dommages collatéraux du capitalisme. Oui, mais il faut se rappeler quelque chose. On ne fait pas de profit sans casser les prix.
Et on ne fait pas d'argent sans casser les gens.
Et alors ? Et puis comme on dit, nous, les générations futures, elles avaient qu'à être là avant.
Les générations futures, elles avaient qu'à être là quand ? Elles avaient qu'à être là ?
Avant !
Et voilà. Allez-y, lâchez-vous pendant la vidéo, n'hésitez pas, soyez pas timide, hein. Exprimez votre joie comme dans les stades. C'est parti, vidéo, les bonnes nouvelles.
Allez, c'est aujourd'hui sur la planète, 8 personnes seulement détiennent autant que 3,5 milliards d'individus, soit la moitié de la population mondiale.
Sa fortune, c'est de 100 milliards de dollars. Donc non seulement le fondateur d'Amazon est l'homme le plus riche du monde, mais il devance maintenant de loin les suivants.
Incroyable montagne de dollars de la première entreprise du monde, Apple, publie ses résultats et affiche 250 milliards de trésorerie.
Pas de quoi freiner pour le moment les profits du CAC 40, qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros en fin d'année, un record depuis 10 ans.
La France est le pays en Europe où les entreprises cotées versent le plus de dividendes à leurs actionnaires.
Avec les marchés financiers, les grandes fortunes ont explosé.
Que du bonheur !
Allons-y, allez, on se lâche tous, on se lève, et c'est parti pour la Samba ! Wouhou !
Voilà.
Champagne.
Échauffé par les profits des multinationales et des places financières.
Samba.
Totalement indifféremment au réchauffement climatique. La salle comble est entièrement debout, en train de faire la hola, de taper des mains, pendant que le pape 40 et son archevêque Triple A défilent les bras en l'air avec leur bimbo de place qui porte autour du cou toujours le signe
bonheur,
euro tout brillant.
Le doigt d'or marque la vie d'un homme profondément.
Quand on est riche, on est bien. Bien dans son corps, on a bon teint. On peut s'économiser, on n'est pas là à transpirer. Quand on est riche, on sent bon. Quand on est riche, on est heureux. Très. On vit dans un cocon moelleux. Même si on est vieux et petit, on plaît aux femmes jeunes et jolies. Quand on est riche, on est beau. Quand on est riche, on fait pas le ménage. Non, enfin, on peut quand on veut partir en voyage. On a un 4x4 imposant, alors on peut rouler sans peur. En cas d'accident, c'est l'autre qui meurt. Du-du-di. Quand on est riche, c'est pas rigolo.
Pas toujours.
On doit payer beaucoup d'impôts.
Beaucoup trop.
Alors on est très affecté, mais on s'empêche de le montrer. Quand on est riche, on est discret.
C'était Comme un bruit qui court, dernière émission de la saison, mais on se retrouve à la rentrée.
D'ici là, vous avez tout l'été pour consulter le site franceinter.fr où vous pouvez écouter tous les podcasts des émissions passées.
Un grand merci à toute l'équipe de Comme un bruit qui court, Jérôme Chélus et June Loper.
Très bon été à tous et à la saison prochaine.